Liberté, égalité, fraternité.
République Campus
88.3 FM, Radio Associative, loi 1901.
Sans doute.
Comment parler de la recherche en art ? Une émission enregistrée à Caen en novembre 2022, à l'occasion des rencontres Sciences, Médias et Société organisées par Radio Campus France et Radio Phoenix. Animation Tiffen et Sybille de Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, merci à nos quatre invités d'être avec nous aujourd'hui pour une émission Radio Campus un peu particulière avec Radio Phoenix. Et donc aujourd'hui avec vous quatre, on va parler de la recherche en art. Je vous propose de vous présenter succinctement et de vous laisser ensuite la parole pour présenter un peu plus en détail ce que vous faites chacun et les spécificités de vos activités. Nous avons Brice Giacalone. Vous êtes anciennement directeur des études de l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg, l'ESAM, on va en parler plusieurs fois, donc je pense qu'on peut dire l'ESAM, et chercheur en sociologie et en anthropologie. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du développement de la recherche de l'ESAM.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Effectivement, donc en charge de la recherche à l'ESAM et puis du programme Radiant, donc le programme de doctorat Radiant dont on parlera, j'imagine, dans cette soirée.
Exactement, mais du coup, on peut faire la transition directement avec vous, Léna Ausserrand. Vous avez un parcours complet, donc vous êtes metteuse en scène, actrice, architecte, mais vous êtes aussi doctorante, donc à Radiant.
Bonsoir, donc oui, je fais une thèse, donc c'est ma deuxième année de thèse au programme Radiant, et je travaille, donc c'est un programme multidisciplinaire dont on va parler encore dans notre soirée, et voilà.
Sophie Lebrun, vous dirigez le collectif La Cohue, donc un collectif d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, un collectif, en fait c'est une compagnie de théâtre qui est basée sur Caen, que je co-dirige avec Martin Legros, et on est donc les directeurs artistiques, donc on mène les mises en scène et on joue aussi dans nos spectacles, donc on est acteur, et aussi on est comédien aussi pour d'autres compagnies. Et là je crois que je suis invitée parce que je dirige la compagnie et qu'on va parler aussi de la recherche en spectacle vivant.
Absolument.
Tout à fait.
Et donc, notre quatrième invitée, Bérénice Serra. Vous êtes professeure d'édition à l'ESAM et membre du laboratoire modulaire.
Oui, alors, je suis avant tout artiste. mais oui, effectivement, je suis enseignante à l'ESAM, donc dans le DNSEP Design Édition. Et je fais partie aussi du labo de recherche, le laboratoire modulaire, qui est dédié aux pratiques numériques.
Du coup, on peut peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que vous faites chacun. Bérénice, si on peut peut-être commencer avec vous.
Oui, bah en fait, ma pratique artistique, elle est, on va dire, elle parle bien de ma position aussi dans les âmes, parce que moi, j'ai une pratique d'édition à travers les technologies web, donc de la création en ligne, mais qui peut aussi donner lieu à des livres imprimés sans passer par des logiciels de PAO. Et dans l'enseignement, j'essaye justement de faire le lien entre les deux. Et ça va au-delà parce qu'en fait, la recherche permet aussi de développer ses outils et de développer ses pratiques avec une communauté.
Donc vous faites principalement de l'écriture ?
Alors, c'est pas forcément de l'écriture si on entend l'écriture au sens large, même avec les images, quoi.
D'accord. Eh bien, peut-être Brice, si vous souhaitez reprendre et continuer sur vos activités à l'ESAM.
Essentiellement, je m'occupe aujourd'hui de la recherche, donc à l'école, avec donc il y a le laboratoire modulaire dont Bérénice a parlé, qui est un des programmes de recherche de l'école. Il y a aussi des activités que l'on mène, des journées d'études, des expositions aussi de nos doctorants qui font état de leur recherche, à quel stade ils en sont. Et donc on a souhaité justement dans cette question de la recherche en art montrer le travail en cours de nos doctorants, non pas faire état des recherches théoriques qu'ils peuvent faire par ailleurs, mais aussi des recherches plastiques. Donc en ce moment, il y a une exposition de Benjamin Auchard, qui est un de nos enseignants, mais aussi un de nos doctorants du programme Radiant, qui est à l'école encore 2 semaines et qui fait état de ses préoccupations en lien avec sa recherche aussi de doctorat. Par ailleurs, il y a ce doctorat, j'imagine qu'on y reviendra. Il est plein d'actualités puisque nous avons eu la soutenance du premier doctorant hier. Donc c'était une première expérience puisque c'est un doctorat qui est assez... il n'est pas seul en France, mais il y en a quand même assez peu de recherche et création. On voyait quel format il allait prendre pour pouvoir allier une recherche théorique et une recherche plastique, tout en ayant à l'idée que ni l'une ni l'autre ne sont l'illustration d'un travail, mais bien en cohérence, en synergie. Léna en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure. Et donc, cette première soutenance qui s'est déroulée hier, et donc notre premier doctorant du programme qui a été diplômé tout juste hier au FRAC. Là aussi, c'est important symboliquement d'être au fond régional d'art contemporain. Donc, on n'était pas dans une salle habituellement que l'on voit pour les soutenances de doctorat, mais bien dans un lieu d'art avec une exposition qui était visible.
Et justement, Léna, vous en tant que doctorante, comment vous mêlez votre pratique artistique à une pratique de recherche ?
Moi, je viens de plusieurs disciplines et donc aussi, ça me permet de concrétiser un projet, une partie de ce projet pratique qui est consacré aussi à la recherche de mouvements expressifs pour les objets d'art robotisés. Et donc, ça permet aussi de rencontrer plusieurs disciplines qui sont, par exemple, la mécatronique, la robotique, les neurosciences, l'architecture computationnelle, la mise en scène, parce qu'après, c'est à partir de cet objet-là scénographié que je vais mettre en scène. Et à partir de là, je vais construire plusieurs prototypages ou plusieurs mises en scène qui vont être écrites à partir de cette scénographie ou à partir de ce robot.
Et donc, en fait, dans la pratique, vous avez des robots et vous les... Comment ça...
Oui, et en fait, je travaille sur le souffle en particulier et j'essaye de voir comment j'arrive aussi à transmettre le souffle à travers des objets et comment le souffle aussi peut prendre corps, donc le corps de l'être humain, le corps du performant, le corps de l'acteur ou de l'interprète, et aussi le corps d'un objet sur scène que je considère un personnage très principal dans les pièces que je suis en train de construire, donc... de voir ce rapport entre les vivants, le partiellement vivant, la mort aussi. Je travaille parce qu'il y a une autre dimension très importante dans mon projet qui est les paysages dévastés. Je travaille comment on représente le paysage dévasté aujourd'hui à travers le théâtre contemporain, comment on arrive à produire en fait une forme ou des formes artistiques sur ce sujet qui est le désastre. D'essayer de voir comment quel est le rapport avec nos villes du futur, vu que donc c'est je viens aussi de ce monde qui est l'architecture, donc de voir ce rapport avec la ville, les ambiances et notre futur. Il y a pas mal d'articulations aussi avec les neurosciences, de voir par exemple qu'est-ce que les neuroscientifiques aujourd'hui peuvent nous dire par rapport à notre mémoire traumatique, disons, puisqu'on parle des paysages dévastés, et comment notre mémoire n'est pas reliée forcément au passé, mais qu'elle est vraiment qu'elle est convergée ou qu'elle est orientée vers le futur. Et donc, on arrive à aussi comprendre que notre mémoire n'est pas forcément... qu'on est en train de se construire à chaque fois dans la vie et qu'on écrit notre propre autobiographie personnelle à chaque fois dans la vie en orientant vers le futur.
Et donc, est-ce que votre pratique, puisque vous avez vous-même une pratique artistique, comment est-ce qu'elle va enrichir votre travail du coup de recherche qui est plus théorique ?
En fait, cette année-là, j'ai cofondé une compagnie théâtrale et donc c'est ce qui s'appelle La nuit sera feu avec Mathilde Lecansoulier. Ce sont des gens que j'ai rencontrés à Caen. Et ça nous a permis de commencer un projet, en fait, dans l'église Saint-Nicolas, qui a vécu le désastre
de la Deuxième Guerre mondiale et de voir comment à travers un espace on arrive à écrire, à travers un lieu qui existe encore, on arrive à écrire sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui peut aussi avancer les choses. Moi, je suis libanaise d'origine, donc je viens aussi d'un pays qui a vécu beaucoup de guerres, qui a été quasi détruit plusieurs fois. Et donc de voir cette approche sur le champ pratique, de voir comment j'arrive à écrire à partir de cette église, donc ça me permet de voir les problématiques, de voir comment on peut raconter les lieux aujourd'hui et de commencer par la pratique pour observer qu'est-ce qui sera les priorités en fait, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui.
Sophie Lebrun, est-ce que ce sont des réflexions que vous pouvez retrouver aussi, vous, dans la compagnie de théâtre que vous dirigez ?
Nous, la recherche, moi, j'ai l'impression qu'elle est très, très solitaire, parce que c'est des recherches qui prennent plusieurs formes, comme des résidences d'écriture, ou d'aller chercher juste aussi des interviews. Ça dépend, en fait, un peu des thèmes de nos spectacles. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de cadre. J'ai l'impression, voilà, on ne va pas se retrouver à plusieurs. Vraiment, ça dépend du projet et de la mise en scène. Et puis après, ça commence très, très, très solitaire. Et puis après, une fois qu'on commence à constituer nos équipes, on va avoir donc du monde, par exemple, à la scénographie qui va venir, une personne. Et là c'est un deuxième moment de recherche. La recherche de base, c'est plutôt... très simplement de l'écriture, de la lecture et aller chercher de la parole aussi chez les gens. Ça passe aussi par de l'action culturelle, parce qu'on fait avec les théâtres, on va soit aller dans des lycées, soit par exemple dans les prisons. Ça fait 2 ans qu'on donne une action culturelle, mais en même temps, comment on récolte en fait de la matière. En gros, moi, la recherche, ouais, c'est comment on récupère en fait de la matière pour donner après vie à nos projets, à nos spectacles.
Sophie, vous avez évoqué un petit peu cet aspect de cadre de la recherche, et donc je pose la question à vos 3 autres collègues qui sont ici. Quel cadre vous avez en fait en recherche, dans vos activités de recherche, comment ça s'installe, comment ça se fait?
Moi, je travaille principalement dans des unités de recherche, donc c'est clair que c'est un cadre très défini, c'est au sein des écoles d'art. Mais ça oriente aussi un petit peu, je pense, ce qu'on entend par recherche, parce que en écoutant les différentes personnes autour de la table, il y a quelque chose déjà qui se dessine, qui est de parler de la recherche en amont d'une création, c'est-à-dire un temps en fait de préparation, d'expérimentation qui va aider à la construction d'une création, et de faire l'inverse, de considérer que la création en fait peut amener à des questionnements sur lesquels on va avoir une réflexion théorique, par exemple. Ou nous, ce qu'on fait aussi au laboratoire modulaire. Donc le laboratoire modulaire, c'est cette unité de recherche qui est donc inscrite à l'ESAM et est ouverte en fait aux pratiques numériques. C'est de partir des projets. On a notamment mis en place une résidence d'artiste pour un artiste chercheur qui vient donc développer un projet artistique sur lequel après on va dégager des thématiques ou des points très très précis en fait qui vont être rediffusés dans la communauté artistique en fait. On va se détacher de l'aspect créatif pour voir qu'est-ce que ça apporte en fait au domaine de manière plus générale et comment on le communique. Et c'est pour ça que nous, dans ce cadre-là, c'est ce que Brice a dit tout à l'heure, on organise des conférences, des journées d'études et des éditions qui sont du coup plutôt une sorte de restitution de cette chose-là qui n'est pas la création mais qui va un petit peu plus loin et qui n'est pas non plus de la théorie ou un texte académique qui viendrait valider ou accompagner l'œuvre, mais qui est quelque chose voilà, qu'on restitue à la communauté. Merci.
Pour vous, quelle est vraiment la spécificité de l'objet art que vous étudiez par rapport aux autres objets qu'on peut étudier? Vous avez des parcours qui peuvent être de sociaux ou d'anthropos. Pour vous, quelle est la spécificité de l'étude de l'art dans ce domaine ?
Peut-être pour revenir tout à l'heure, parce que je pense que c'est pas évident de saisir la singularité aussi de cette recherche, et puis pour prendre l'exemple du doctorat qui je trouve est parlant, on demande pas aux doctorants de remettre un document théorique. C'est pas l'objet du doctorat. Il y a une partie théorique. Il y a un journal de bord qui est encore à discuter dans ses formes, qui est souvent discuté parce qu'on ne sait pas encore exactement quelle forme il peut prendre, mais qui est assez libre. Et il y a une œuvre qui est mise au même titre que les autres, et notamment que le travail théorique. Donc la recherche plastique est mis au même titre que la recherche théorique. C'est pour ça qu'on le fait aussi avec l'université, parce qu'il y a vraiment ces deux parties, et qu'on le fait avec les écoles d'art, chacun dans sa spécificité, dans son domaine d'expertise, on va dire, comme il y a un domaine d'expertise dans les recherches en médecine, dans lequel je n'y connais pas grand-chose, comme il y en a en anthropologie, et donc l'objet soit un peu déplacé par rapport aux thèses qui pouvaient exister auparavant, où il y avait des thèses d'histoire de l'art, ou même des thèses en recherche plastique, étaient des documents essentiellement écrits. Et là, on remet vraiment l'œuvre au centre.
Au centre. Et pour vous, Léna, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de participer à ce projet-là en particulier, de faire votre doctorat au sein de ce projet ?
Oui, parce que en fait, je considère que on peut pas dissocier vraiment la recherche de la création. C'est un artiste, il travaille toujours la recherche, mais d'une autre manière. Après, il y a une autre forme aussi de la recherche création qui est au sein, donc. Qui est dans le milieu de la recherche universitaire, mais qui lie aussi la pratique des arts et les sciences de l'art aux sciences sociales ou sciences pures. Donc aussi, c'est important de dire qu'il y a plusieurs façons de travailler les méthodologies. Il y a une méthodologie un peu multidisciplinaire, mais parfois les recherches, recherche-création peuvent être aussi recherche en art et sciences. Donc comment on peut travailler, par exemple, un artiste avec un neuroscientifique, un artiste avec quelqu'un qui vient de un médecin, par exemple, et qu'est-ce qu'ils peuvent créer à partir de ça. Et je trouve que c'est effectivement ça ce qui est intéressant, parce que ça nous permet, en tant qu'artiste, aussi de sortir du zone du confort et dire « bon, je vais créer toute la journée ». Ben non, il y a la vie, il y a l'humanité qui est en train d'avancer, il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui sont en train d'être... Il y a le progrès technologique aussi, donc faudra aussi s'ouvrir à d'autres disciplines et comprendre comment on articule les choses différemment aujourd'hui.
Et pour vous, Sophie, est-ce que vous avez eu envie aussi d'intégrer un côté plus théorique au théâtre, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, co-travailler avec, par exemple, des scientifiques ?
Non. non, c'est vrai qu'on n'a pas, en tout cas avec la compagnie, on n'a pas ce côté... très théorique, et peut-être parce qu'on n'est pas passé par la fac. Enfin, moi j'ai fait de la socio juste 2 ans, il y a longtemps, et je l'ai réutilisé il n'y a pas si longtemps pour un spectacle, pour faire des interviews, et je me suis dit ah mais tiens, j'ai quand même mes méthodes de socio pour faire des entretiens et de faire parler les gens. Et du coup là j'avais une petite méthode qui m'est revenue et tout ça. Mais ensuite sur la théorie, je pense pas, parce qu'on vraiment on travaille sur le vivant, et donc on a, c'est plutôt des impressions. Et je suis sur un autre spectacle aussi où là, en fait, c'est plutôt de la mise en situation. Et pendant 2 ans, on est allé vivre ou faire des résidences, comme on appelle, parce qu'on a des résidences d'artistes, donc soit des laboratoires et tout, des résidences dans des lieux. Là, c'était plutôt des lieux des squats ou rencontrer des punks à chiens. Donc, c'est pas du tout théorique, c'est vraiment la vie. Et c'est même vraiment, en plus, on rentrait... C'était tout un moment de recherche où on rentrait dans des rôles. Presque, c'est pas de l'espionnage, c'est pas ça. Mais on rentre et c'est vraiment
Quand vous parlez de rentrer dans un rôle, c'est...
Ça veut dire que, par exemple, des fois, on est allé dans des endroits, des squats et tout ça. Et puis, en fait, je suis pas allée en tant que Sophie Lebrun, quoi. Je changeais presque même... d'identité, de choses comme ça, pour pouvoir rentrer un peu dans la matière et me fondre. Et ça, c'était tout un moment de recherche. Et donc là, c'est un peu aussi vertigineux, parce qu'on peut passer comme ça une semaine, 10 jours, 15 jours. Et c'est un moment où, en fait, on devient quelqu'un d'autre. Et en même temps, le soir, on prend nos petites notes. On peut des fois enregistrer des enregistrements vocaux pour pas perdre la chose.
C'est vraiment s'imprégner de la vie d'un lieu, de personnes, de rencontres. Ouais.
Et pour ça, moi, c'est aussi de la recherche. Et du coup, pour moi, c'est pas du tout de la théorie. Mais peut-être après, j'ai pas les mots pour ça, mais...
Je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle aussi avec le travail de sociologue dans ce que vous dites, puisque dans le travail de sociologue, on peut aussi faire des recherches à couvert. Ce que vous disiez, expliquer dans un petit micro, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi en anthropologie, en sociologie.
Et même en art, par exemple, en théâtre, il y avait Grotowski qui a travaillé beaucoup dans les forêts. Il s'isolait pour écrire. En fait, il n'aimait pas trop écrire, mais il partageait des expériences comme ça transcendantales avec les acteurs et ils essayaient de se méditer pour très longtemps, de répéter les mêmes exercices tout au long de des mois. Et donc, c'est les premières formes d'une recherche-création, en fait, qui ont été faites par, aussi dans le théâtre, Stanislavski, qui écrivait sa propre expérience, et à partir d'une expérience personnelle, qui arrive à écrire son vécu.
Je pense que dans les arts plastiques, c'est... Enfin, quand tu dis que l'expérience est alimentée aussi par une prise de notes, par une prise... En fait, on oublie que la théorie aussi, une grosse partie de la théorie en art, c'était les écrits d'artistes. Donc c'est des écrits en fait, qui accompagnent le travail artistique, pas forcément des écrits académiques, mais en tout cas ce travail d'avoir une réflexion qui passe par les mots en même temps qu'on est en train de créer des expériences ou de vivre quelque chose, c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps. On a des exemples de volumes très connus, des écrits de Buren par exemple, qui font je ne sais plus combien de tomes, qui aident aussi à suivre la pensée et les méthodes de travail des artistes.
Peut-être qu'on peut aussi maintenant passer à une partie où plus on va parler de la médiation et de comment vous diffusez, que ce soit la recherche en art. Est-ce qu'il y a une forme de médiation et de diffusion au grand public de ces recherches théoriques ? Ou est-ce que la diffusion se fait plus sur la pratique et sur le produit fini, finalement, de l'art ?
C'est une vraie question. non, mais qu'on se pose, hein, on réfléchit à toutes les formes de diffusion, de médiation. On se le pose aussi parce que comme on est rentré dans un cadre... on va dire, plus formel de recherche qui est identifiée avec un doctorat. Donc on se pose la question effectivement de ces formes, comment on les fait vivre, y a plein de réflexions qui entrent. On est sur un projet, par exemple, de diffusion en ligne avec des outils aussi libres. Enfin, on est sur ces réflexions-là, mais on n'est pas encore sur des choses très arrêtées. Je pense qu'elles prennent forme avec chaque projet, en réalité. On les réfléchit avec chaque projet. Il n'y a pas de forme totalement définie. Après, il y a des choses assez classiques, hein, qui peuvent exister pour des journées d'études ou pour où on va diffuser les résultats, on va faire une conférence, mais sur les formes de recherche, il y a les expositions que l'on fait, et puis il y a plein d'éléments qu'on réfléchit en cours de en faisant, en fait. Je pense qu'il y a cette dimension-là aussi de recherche, même dans la forme de que l'on fait à l'école, de quelle forme ça peut prendre, elle évolue en continu.
Oui, il y a aussi la recherche participative, qui n'est pas la même chose que la recherche-création, donc, qui engage plus. Donc la recherche participative engage plus les habitants, soit les audiences, soit les usagers, soit... Donc qui en parle, qui parle plutôt... plus dans, avec la société, alors que la recherche-création, elle est plutôt orientée vers la création, soit il y a une partie qui sera plus concentrée sur la recherche, soit la création, mais pas forcément des protocoles ou des manières pour engager le public ou pour communiquer avec le public. Donc c'est une autre manière de penser les choses, une autre manière de vulgariser les arts ou les sciences. C'est pas la même chose. Il y a parfois, c'est à mi-chemin entre les deux, mais je pense que
c'est pas la même chose.
Quand vous parlez de recherche participative, ouais. Comment ça prend forme ?
Par exemple, d'engager des habitants dans un travail artistique où on considère que les habitants aussi sont des artistes et qui ont le droit de construire leur propre projet, leur propre vision, avec des projets qui sont, par exemple, avec des sociologues où on accompagne les habitants dans la ville pour qu'ils nous racontent de leurs propres expériences, de leur propre vécu. Et comme ça, après, ils pourraient, par exemple, choisir de mettre en œuvre, de créer quelque chose à partir de ce vécu-là et de le montrer ou de le partager avec d'autres participants. Ouais. C'est plutôt en relation avec donc la ville culturelle, les archives de la ville, la société. Ça peut être aussi sur des thématiques très, très variées, donc très ouvertes.
Et vous, Sophie
Sur la recherche, je vais reprendre les mots recherche participative. Nous, comme on aime bien avoir du public assez rapidement, et même quand on est en recherche et que, par exemple, le spectacle, il va être créé seulement dans un an ou dans un an et demi, on va montrer au public. Donc là, c'est pas participatif, mais c'est une façon aussi d'avoir des retours assez tôt. Dans la création, et même si c'est des bouts de choses qui ne seront pas du tout dans le spectacle. Mais nous, de rencontrer le public, ça nous rend compte de choses qui font qu'après, on repart avec des nouvelles problématiques et on continue le travail. Et par exemple, des fois, on a créé aussi dans des lycées, on avait plusieurs étapes dans les lycées, ben, ça permettait en fait d'avoir du public très, très rapidement. Et d'avoir des échanges. Et donc, en fait, moi, je pense que voilà, c'est les échanges directs avec ce qu'on vient de créer qui fait que ben, c'est une sorte de participation. Après, à un moment donné aussi, sur un autre projet, on était dans un hôpital psy. Ben là, par contre, c'était tous les jours. On ouvrait une session. Et là, par exemple, tout le monde pouvait participer. Donc, il y avait des règles de jeu. Donc là, c'était très direct, quoi. Donc, il y avait eu toute une recherche de comment on allait les faire participer. Mais là, c'était tous les jours, dans un rythme. Et du coup, il faut avoir le... Mais je pense à ça aussi, c'est qu'on n'a pas trop de temps en art, en tout cas nous, de recherche. Et c'est vraiment très, très précieux d'avoir de la recherche. Et c'est quand on arrive à avoir un peu d'argent, des subventions et tout ça, qu'on peut dire, attendez, donnez-nous le temps peut-être d'avoir un an et demi, simplement de recherche, sans obligation de résultat. Mais ça, c'est pas une donne... Enfin, c'est pas si facile que ça. Et du coup, quand on arrive à en avoir, ben, c'est vraiment une chance parce que ça enrichit d'autant plus tout le reste après, les moments de création et tout ça.
Oui, parce que je pense que du coup, des activités comme ça où il y a beaucoup d'échanges avec vraiment un public où tout le monde peut participer, réellement, ça prend du temps de préparation, de réflexion, de comment on le met en place, comment on le fait en pratique.
Oui, d'avoir des endroits aussi où se retrouver. Donc, on a les théâtres, mais en fin de compte, les théâtres, c'est seulement quand on joue. Donc, oui, les lycées, les prisons, d'avoir des lieux où on peut... On a du monde pour...
Oui, de l'importance aussi de faire des collaborations avec des laboratoires de recherche et des compagnies artistiques aussi. Donc, ça enrichit... tout le monde en fait, qu'on puisse dialoguer sur un sujet, soit sur une réflexion, et ça permet en fait d'évoluer là, donc de partie, soit aussi de ne pas se rencontrer du tout et décider que non, on peut pas travailler ensemble parce que c'est hyper difficile de faire les deux, soit ça peut être un bon résultat et un bon processus qui sera enrichissant pour tout le monde.
Moi, je voudrais juste rappeler quand même que la recherche, elle est publique. Donc, par essence, elle doit être communiquée. En tout cas, dans ce qu'on entend à les âmes par recherche, qui est différente de ce que Sophie aborde en tant que processus qui mène à une création. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'elle doit être accessible aussi. C'est-à-dire que pour qu'on puisse, tout comme Nat disait qu'en fait, on pouvait s'inspirer de travaux qui sont menés en sociologie, en neurosciences. En fait, on peut s'en servir parce que ils sont accessibles, parce qu'on peut rencontrer ces personnes et tout comme on va chercher dans d'autres domaines en fait de la documentation, ben ce qu'on produit comme recherche en art, on doit aussi faire l'effort de la rendre publique, de la publier, de la partager. Et ce qui reste le langage commun, on va dire, qui n'est pas spécifique à l'art, c'est quand même l'écrit et la communication, la parole, en fait. Donc c'est vrai qu'au laboratoire modulaire, on est vraiment attaché à produire des éditions qui sont finalement disponibles en ligne et téléchargeables gratuitement, et à créer des moments, des espaces aussi de rencontres, d'écoute et de partage, quoi. De cette recherche.
Quand vous dites des espaces des temps de partage, en tout cas, c'est avec tout public, avec toute personne ou oui, pas forcément avec oui. Oui.
En fait, toutes les conférences, les colloques, les tables rondes sont ouvertes au public. Et après, on fait des liens, évidemment, avec la pédagogie, puisque c'est quand même une unité de recherche dans une école d'art, où là, on cible vraiment le partage d'expériences avec les étudiants.
Ah, on a une question. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, finalement, toute cette recherche artistique, que ce soit dans vos vies ou dans vos pratiques?
Ça aide au développement déjà de nos propres pratiques artistiques. Et puis ça aide aussi au développement... Enfin, je vais prendre un exemple concret, parce qu'en fait, c'est très, très difficile, je pense, à situer ce qu'on fait. Mais... il se peut que lorsqu'on est sur de la recherche artistique, on développe parfois des outils qui n'existent pas et qui pourraient être après resservir à d'autres artistes. Et donc du coup, comme je disais tout au début de cette table ronde, on redonne aussi à la communauté. Donc ça nous apporte personnellement parce qu'évidemment on apprend... on se documente, on se nourrit, on lit énormément de choses, on croise des questions, des paroles avec d'autres personnes, mais aussi on redonne. Donc c'est vrai que l'art, les productions, les créations plastiques qui sont liées à la recherche, elles sont nourries de la recherche et vice-versa, quoi.
Et vous, Sophie, qu'est-ce qu'elle vous apporte, votre pratique artistique, personnellement?
Juste le moment de recherche ou...
Vraiment de façon globale, que ce soit la recherche et le moment de restitution aussi, qui est quand même...
Ouais, ça rapporte beaucoup d'expériences de vie, j'ai l'impression, parce qu'on travaille quand même en théâtre sur nos émotions et puis sur, comme je dis, et sur l'humain. Et du coup, c'est plutôt de l'expérience... je ne sais pas si je me dis « Ah tiens, l'art m'a donné quelque chose ». Je ne crois pas. Ou peut-être que j'en ai pas conscience. Mais non, plutôt des expériences et de comprendre les autres. Parce que comme on doit se mettre après à la place de d'autres gens, et ben plus on a de récits, plus on a des moments d'observation et choses, ça, plus on complexifie après notre jeu, notre pensée... notre écriture. Mais voilà, c'est un aller-retour. Mais,
Il y a une collaboration entre à la fois le public...
Ouais, après, quand c'est avec le public, là, je dirais que c'est plus... Là, c'est le moment du simple plaisir aussi. C'est quand c'est un moment de réel plaisir de donner, à un moment donné, quelque chose et du coup, de recevoir les gens qui écoutent, les gens qui perçoivent nos messages et tout. Et donc là, il y a un réel plaisir à jouer. Donc là, après, on est encore au-delà. Et moi, je trouve ça important, ça.
Parce que, d'après ce que j'ai compris, vous avez aussi des activités de médiation, du coup, dans des hôpitaux.
Oui, ça dépend. Oui,
des prisons aussi, oui. Il m'a semblé. Et donc, comment ça se passe, ces moments de collaboration? Parce que j'imagine qu'il va y avoir une collaboration à la fois entre les personnes que vous allez voir et une création finale. Comment ça prend forme?
Dans des cadres comme ça, où c'est très, très fermé, où il y a vraiment la liberté, elle est assez réduite. C'est comment, du coup, on part dans l'imaginaire. Et donc là, c'est vraiment un peu au jour le jour. Il n'y a pas de grande méthode, mais c'est juste comment on ouvre un peu les portes avec eux, l'imaginaire et des émotions et des choses comme ça. Donc c'est des tout petites choses, mais après aussi, mais en effet, après dans ces endroits-là, c'est des moments aussi assez forts pour nous. Hein,
Parce que j'imagine qu'on a affaire quand même à un public qui est assez isolé.
Oui, isolé, mais s'ils sont là et qu'ils ont choisi de faire du coup les ateliers avec nous, c'est qu'ils ont envie de, ils ont une envie qui est au-delà de nous en dehors. C'est presque même, ça fait partie de sorte de pas de survie, mais de quelque chose où y a une très grande envie. Donc ils donnent beaucoup. Là. C'est quelque chose qui dépasse un peu les limites qu'on ne voit pas forcément dans des milieux. Voilà.
Il me semblait qu'il y avait une autre question aussi du public. Donc Léna, oui, vous avez parlé, vous avez évoqué les termes partiellement vivants. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous entendez par ces termes-là? Comment on peut être à moitié vivant, partiellement vivant?
C'est difficile en fait de répondre à cette question parce que c'est difficile parce que partiellement vivant, ça peut être un corps qui vit quelque chose, mais qui est là, mais qui n'est pas présent en fait, qui est présent physiquement, mais qui est mentalement ailleurs. Et donc pareil, comme s'il y a quelqu'un qui vibre, qui respire, qui est présent, mais qui vit pas. Donc est-ce que c'est un signe de vie ou un signe de mort? Et ça vient répondre en fait sur les paysages dévastés et les habitants de ces paysages dévastés. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont toujours là ou pas? Et pour les vivants aussi, est-ce qu'ils sont partiellement vivants parce qu'ils sont là, mais ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien changer? Et donc aussi, ça, c'est un rabattement vers les machines. Qui sont aussi présents, mais on ne sait pas s'ils respirent, s'ils sont là, pas là. Donc le corps de la machine, ça permet de questionner le corps de la machine, le corps de l'humain aujourd'hui et l'humain du futur aussi.
On a une autre question. Oui. Donc la question qui, enfin, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'il existe une méthode finalement de recherche en art? Est-ce qu'on a une méthode de recherche en art qui peut s'apparenter à la méthode de recherche en sciences, que ce soit biologie ou SHS?
Là, je pense que la question, c'était surtout sur la scientificité, plus que sur la méthode.
D'accord.
Et en fait, juste un exemple, si on suit un modèle scientifique pour les articles qui sont publiés dans les revues, il y a un comité donc de lecture en double aveugle normalement qui fonctionne sur les articles scientifiques, s'assurer, on va dire, c'est une mise en place d'un protocole pour s'assurer que ça rentre bien dans le cadre. Donc la personne qui est lue ne sait pas par qui elle est lue et la personne qui lit ne sait pas qui elle lit. Sauf que si on imagine ça en art avec des œuvres, on peut pas du tout passer par ce type de protocole parce que ça implique, enfin, quand on a un travail artistique sous les yeux, il est très lié à la personne de l'art, enfin l'individu, quoi, à l'artiste. Donc ce serait très difficile de le faire rentrer dans ces systèmes qui assurent une certaine scientificité en fait.
Ça dépend comment on définit. Si c'est de la production de savoir, de la transmission de savoir, ils sont créés tout le temps. Si on est sur, parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas dit depuis le début, mais on tourne un peu autour sur les questions d'objectivité ou subjectivité. Effectivement, là, il y a une subjectivité assumée, le sensible qui est mis au cœur, enfin voilà, de la démarche de recherche. Mais ceci dit, ça peut exister aussi dans d'autres disciplines, mais ça vient aussi construire un savoir. Donc ça dépend comment on l'appelle, et c'est pour ça que je pense qu'il y avait la question de la méthodologie. Effectivement, là, la méthodologie, elle diffère complètement. Après, je regarde Léna et Bérénice, je ne pense pas qu'on puisse en définir une seule.
Non, mais il y a quand même, de manière plus générale, bien une validation par les pairs qui existe, mais elle se fait sur d'autres critères. D'ailleurs, je ne sais pas si Léna, tu veux en dire plus, mais en fait, il y a certains critères comme une connaissance du milieu dans lequel la production s'inscrit, le rapport à l'histoire de l'art, le rapport à une connaissance à la fois technique et au dépassement technique, à la pensée justement de, enfin il y a plein de critères mais qui ne pourraient pas du tout en fait établir de parallèle avec ce qui se passe dans les sciences.
Oui, après aussi, c'est-à-dire la recherche basée sur les arts est souvent très liée aux méthodes qualitatives de recherche et aussi sur des approches critiques, donc comment on regarde les œuvres, comment on les analyse. Aussi, ça peut passer par des approches aussi comparatives, on compare des choses, mais chaque projet vraiment, il a sa propre méthodologie, une manière de réflexion, et chaque projet, il pose ses propres problématiques, et à voir comment chaque artiste, avec sa méthode de travail, est-ce qu'il a besoin, par exemple, est-ce que c'est une association entre... Comme j'ai indiqué, que ça peut être des formes de sciences et arts, donc ça peut se baser sur des protocoles, par exemple, sociaux ou des protocoles neuroscientifiques pour comprendre comment ce projet artistique peut s'articuler, qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi. Et donc ça dépend vraiment de chaque projet. Ça dépend de chaque artiste, il n'y a pas une seule méthode. Des fois, c'est des méthodes aussi assez pluridisciplinaires à inventer à chaque fois. Et des méthodes, il faut essayer plusieurs méthodes des fois, donc ça dépend vraiment du cas et qu'est-ce qu'on est en train de chercher.
Oui, c'est vrai, vous avez dit le mot pluridisciplinaire. C'est vrai que dans les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, on voit que tous ces domaines-là, ils sont très souvent à la croisée de plein de choses différentes. Et donc j'en arrivais à une question. Vous dites qu'on ne peut pas vraiment définir une méthodologie pour la recherche en art parce que c'est trop large, il va y avoir trop de choses qui rentrent en compte et qui sont différentes dans tout ça.
Après, il faut mettre des priorités aussi à un moment, parce qu'on se permet dans les deux premières années d'être un peu rhizome, de partir dans tous les sens. Puis après, à un moment, il faut être très, très précis aussi, qu'est-ce qu'on cherche pour terminer la thèse et qu'il y a quelque chose qui est assez clair pour l'artiste et pour parce qu'on est accompagné aussi dans un programme Radiant par un directeur de thèse qui a une habilité à diriger des recherches, donc il connaît très bien les parcours universitaires et les parcours de la recherche, avec un co-directeur ou une co-directrice qui nous accompagne sur l'aspect artistique, l'articulation de l'art avec la méthodologie scientifique. On a toujours ce débat en fait avec nos directeurs. Est-ce qu'on met l'art au centre et on défend qu'on va mettre l'art au centre, mais des fois c'est pas le cas aussi.
Oui, il y a tout un travail en binôme du côté théorique et convaincre, du côté pratique.
Il y a peut-être quelque chose d'autre aussi qui se dégage là, c'est que on parle d'art, mais en fait l'art c'est un peu comme les sciences humaines. Après il y a des domaines quand même dedans, et je pense que chaque domaine, on a l'exemple autour de la table, les arts de la scène a une méthodologie qui est différente des arts plastiques, qui va être différente des arts numériques, qui va être différente. Et donc c'est vrai que faire des généralités sur les méthodes, c'est assez difficile.
Je ne m'étais pas posé la question de la création, que ça pouvait, enfin que ça avait peut-être, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire scientifiquement et tout ça. D'un coup, je me suis dit, ah ouais, mais la création, c'est de ouf. Mais nous, c'est vrai qu'on utilise création et peut-être qu'on l'utilise un peu comme ça à tout va. Mais en même temps, on dit soit spectacle, soit notre dernière création, c'est ça. Donc très souvent pour nous, c'est un spectacle quand même qui a lieu dans un théâtre avec une première et après une tournée. Du coup, on a quand même toute une méthode. Après, ça dépend, mais c'est vrai qu'on on commence toujours assez seul, après avec les acteurs, ensuite après on a la technique qui arrive, donc ça veut dire les gens à la lumière, le son, qui eux aussi commencent à créer aussi par rapport au thème aux écrits qu'on a proposé, et la scénographie, et donc là après jusqu'à arriver à notre première qui est le jour de la création. Nous c'est ça, on dit quand même que notre première c'est le jour de la créa. Donc peut-être qu'on utilise mal ce mot-là, mais c'est vraiment du vocabulaire quand même qu'on utilise en tout cas dans le théâtre. Donc il y a, et voilà, et on va mettre, je dirais dans le temps, c'est pratiquement 2 ans. Et j'ai l'impression en tout cas nous qu'on fait, voilà, ça a quand même une durée avec une méthode, les gens qui arrivent, qui amènent leurs compétences jusqu'à ce qu'on ait à un moment donné, voilà, c'est une sorte d'alchimie et le spectacle qui sort et qui est créé. Et c'est quelque chose, en fait, d'assez unique parce qu'en principe, personne n'a fait cette création avant nous. Voilà.
C'est assez étonnant parce que du coup, quand vous parlez de création, il y a toute la partie en amont de préparation, de spectacle, etc., que vous n'appelez pas création, du coup ?
J'ai l'impression que ça vient vraiment vers la fin. Tout le début, ça va être du laboratoire, des recherches, des résidences. Les résidences de création, elles vont vraiment arriver vers le bout de tout ce processus et du jour où on crée notre première. Au tout début, je ne vais pas dire « Ah, je suis en création », alors que je suis vraiment peut-être encore toute seule. Non, c'est vraiment pour moi la recherche. Puis après, comment tous les corps de métier arrivent et...
Et comment ça aboutit
ouais.
Juste pour donner un exemple de recherche-création d'un projet d'art du spectacle, par exemple. Donc ça peut être, on cherche la réception du public, ça peut être des travaux qui sont en train de se mener, par exemple, à Goldsmith University, avec un chercheur artiste qui s'appelle Jamie Ward, où ils invitent les spectateurs et il met des casques, par exemple, pour mesurer la réception du public, est-ce qu'elle était en synchronisation avec les acteurs et les actrices. Et donc, il met des casques pour les deux, partie public, partie spectateur, partie acteur. Et il regarde, il observe ces capteurs, est-ce qu'ils ont les mêmes réactions dans les mêmes moments, sur les mêmes moments, donc il a ses observations et donc lui en particulier il est un cas spécial parce qu'il est informaticien et en même temps il est acteur, donc il a ses multifacettes pour faire les deux choses. Donc
alors moi j'avais une question, mais plutôt sur votre parcours ou sur là où vous en êtes aujourd'hui. À quel point vos activités en tant qu'artiste et vos activités dans la recherche sont liées ? Est-ce qu'on peut être dans la recherche en art, peu importe le type d'art, j'ai envie de dire, que l'on regarde, est-ce qu'on peut faire cela sans être un artiste ? Comment se passent les liens entre l'artiste et le chercheur ou la chercheure ?
Bah, on ne peut pas faire de recherche artistique sans pratique artistique, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on ne peut pas faire de la recherche artistique sans financement. En fait, Sophie en a un peu parlé, c'est assez nouveau, on va dire, la mise en place des dispositifs vraiment pour accompagner la recherche artistique. Et on est encore sur des conditions, on va dire, qui permettent pas de penser à long terme. Le doctorat, c'est 3 ans, c'est ça. Nous, au laboratoire modulaire, on est sur un financement de 4 ans du ministère de la Culture. Donc si on veut continuer en fait, à produire cette recherche, à la restituer au public, on se pose la question de combien de temps on sera capable de faire ça. Donc, mais alors que la création, la pratique artistique, elle ne s'arrêtera pas, ça c'est sûr.
C'est vrai que c'est un enjeu, hein, la structuration, le financement, c'est une réflexion qui est dans toutes les écoles, qui est au ministère de la Culture et qui nous questionne parce qu'on sait très bien, mais ça existe... partout dans la recherche, en réalité, on a besoin de temps, on a besoin de ne pas se poser la question de si on aura de quoi financer demain. Donc c'est cette question de durabilité, de perspective dans le temps, elle est vraiment, vraiment importante, je pense.
Parce que du coup, vous, l'ESA est rattaché à l'université ou c'est quelque chose d'indépendant ?
Non, en fait, les écoles d'art sont des établissements autonomes qui ont une tutelle du ministère de la Culture. Pour la partie doctorat, on travaille avec l'université, puisque le doctorat, c'est vraiment le diplôme de l'université. Nous, on délivre des licences et des masters, mais on travaille là avec l'université. D'ailleurs, c'était... intéressant de le travailler avec l'université, avec deux cultures extrêmement différentes. Au départ, des besoins de médiation, effectivement, de savoir ce que les uns et les autres faisaient. Et au final, on se rend compte qu'on arrive à avancer ensemble, à partager aussi des visions communes. Et je pense que aujourd'hui, de toute façon, dans la recherche de manière générale, je connais assez peu de recherches qui se font chacun dans sa discipline, chacun dans son coin, chacun, il y a vraiment besoin de partager, de réfléchir ensemble. Je lisais encore l'autre jour des réflexions, même médicales, de savoir comment se projeter demain sur les pathologies qui pouvaient apparaître. Bah, on va réfléchir avec des médecins, mais on va réfléchir aussi avec des penseurs du social qui vont voir les impacts que peuvent avoir des comportements ou des modes de déplacement sur la santé. Et puis on va travailler, je voyais un projet du CNRS qui va aussi associer des artistes dans ce projet. Donc je pense que ça montre un peu aussi comment la recherche évolue aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle arrive à se faire dans son petit laboratoire monodisciplinaire ou dans son atelier tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un besoin de partager et de circuler. Mais pour revenir sur la question de départ, effectivement, on n'est pas rattaché à l'université, on est des établissements autonomes, donc on avait besoin aussi de rentrer en dialogue, et c'est plutôt riche, avec l'université.
Et justement, au niveau des financements, comment vous arrivez à justifier, parce que j'imagine qu'il faut demander donc, des financements.
On a été soutenus notamment par la région aussi, sur le financement de ce doctorat, et puis le ministère de la Culture. C'est effectivement convaincre de l'intérêt de développer ce programme. On a plutôt de l'écoute. Hein. Au final, on se disait au départ, est-ce que on va être écouté avec ce projet de doctorat notamment, et puis le projet de recherche du laboratoire modulaire. On a eu l'écoute. Après, effectivement, c'est sur le temps long où il faut qu'on arrive à inventer des choses. Là, c'est plus difficile d'arriver à se projeter, notamment sur les projets de recherche un peu structurants, où on est en dialogue avec le ministère de la Culture sur voir comment on structure la recherche dans les écoles d'art.
À savoir qu'il n'y a pas de statut d'enseignant-chercheur en école d'art.
Et donc, du coup, pour encadrer les doctorats, j'imagine qu'il faut être enseignant-chercheur. De quel... Pas forcément.
On fait appel à la créativité dans ces cas-là. On relit les textes plusieurs fois et on se rend compte qu'en fait, il y a des possibilités, il y a des ouvertures qui sont possibles. Donc, par exemple, pour encadrer le doctorat, il y a un universitaire aujourd'hui et puis une personne d'école d'art. Et puis quand c'est un des enseignants de l'école, c'est un artiste, une artiste qui est d'une autre école ou pas d'une école. Et ça, c'est possible aujourd'hui dans le cadre du doctorat aussi, parce que l'université nous a écouté là-dessus, parce que effectivement il fallait aussi des personnes qui sont en capacité, on disait c'est une évaluation par les pairs, qui sont en capacité de regarder le travail, de comprendre le processus, la méthodologie, les recherches. Donc c'est un vrai sujet, parce que effectivement il faut des personnes qui sont, alors là, c'est des termes compliqués, mais habilitées à diriger des recherches. C'est un autre diplôme après le doctorat. Il y en a très peu dans les écoles d'art, donc c'est aussi un travail que l'on mène d'accompagner les enseignants qui le souhaitent. Il commence à y en avoir dans les écoles d'art, et donc c'est important, parce que ça veut dire aussi que les écoles d'art seront en capacité elles-mêmes de pouvoir accompagner la recherche du début à la fin.
Et de quel domaine viennent en général ces directeurs, directrices de thèse ?
De philosophie, de littérature comparée, d'art du spectacle, pour mon cas, du cinéma aussi. Oui.
Le hasard fait qu'il n'y a pas effectivement d'histoire de l'art, par exemple, sur la Normandie. Donc,
ma co-directrice, oui, qui est à l'école de Rouen, qui est d'où.
Donc voilà, les historiens de l'art vont plutôt venir oui. Des écoles d'art.
Oui. Pour le concours d'habilité à diriger des recherches, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des postes, des ouvertures pour le concours qui sont ouvertes dans différents domaines, ou juste quelqu'un souhaite passer le concours ?
C'est comme un diplôme, c'est un mémoire. Alors c'est un peu plus court qu'un doctorat, mais c'est assimilé à un diplôme. Et on doit produire un mémoire de recherche, être docteur et produire un mémoire de recherche pour être habilité à diriger des recherches.
Peut-être avant de conclure cet échange, je me permets une dernière question. Bérénice, vous avez dit qu'il n'y a pas de statut d'enseignant-chercheur en art. Comment ça se fait ?
Alors, comment ça se fait? C'est des discussions qui ont lieu à un niveau que je ne maîtrise pas.
il y a des enseignants, il y a des chercheurs. Donc, pourquoi il n'y a pas cette... Je ne sais pas s'il y a un semblant de réponse ou de...
Ah non, on se pose la même question et on n'a pas de réponse.
D'accord.
Mais c'est vrai que, par exemple, quand on obtient des financements sur projet, que ce soit des appels à projets, des financements européens ou des financements du ministère, l'argent va en fait à la production de la recherche. Pour nous, la mise en place, par exemple, de cette résidence, la production des éditions, l'organisation des journées d'études. Mais ça ne va pas du tout dans la rémunération en fait, des chercheurs et le fonctionnement. Ouais.
Est-ce qu'il existe d'autres projets de recherche comme ça autour des arts en France, à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt nouveau?
Il y a des unités de recherche dans presque toutes les écoles d'art de France qui sont elles-mêmes connectées à des labos de recherche en Europe. Enfin, la recherche en art, évidemment, ça ne s'arrête pas à la France. On est même invité en fait à participer à des choses à un niveau européen, que ce soit des colloques, des journées d'études, des symposiums, enfin voilà, ce genre de choses.
Ça avait été une des discussions aussi avec l'université, c'était de se rendre compte qu'on n'était peut-être pas très en avance en France. Sur justement la recherche-création et que ça avait un peu motivé aussi et interrogé de se dire que là il y avait en France un petit train de retard. Après, en France il existe aussi le programme SACRE à Paris, enfin voilà, il existe d'autres programmes, il n'y en a pas beaucoup quand même au niveau du territoire.
Moi, je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup à tous les quatre, Brice, Léna, Bérénice et Sophie, d'avoir été parmi nous pour cette discussion. Merci beaucoup au public aussi pour vos questions pertinentes. Merci à Radio Phoenix, à RCP, Radio Campus Paris.
Merci beaucoup aux ateliers intermédiaires de nous accueillir ce soir. Merci à tous et bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. We'll be right back.